CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est le mag de CFM de midi, c'est Joanne dans votre compagnie pour une petite demi-heure avec beaucoup de monde dans les studios. Beaucoup de monde dans les studios parce que c'est une mobilisation dont on va parler. Il s'agit de mobilisation des parents d'élèves qui refusent, on va dire encore, d'ailleurs c'est eux qui le disent dans leur communiqué de presse, encore des suppressions de postes annoncées sur les territoires du pays. Alors évidemment, tous ces gens sont mobilisés, donc ils ont des portables qui sonnent. Ça prouve bien qu'on est en direct. On a Marie Anderly qui est... Bonjour Marie.
Bonjour.
Qui s'occupe des écoles pour la mairie de Caylus. Julie Buisson qui est parente d'élèves à Caylus. Florence Moreau-Gaudry qui est à la fois parente et à la fois élue au conseil municipal de Saint-Antonin qui s'occupe des écoles et qui presque la mémoire de cette histoire parce qu'il y a belle lurette qu'à Saint-Antonin des problèmes se posent.
Hein. Bonjour, oui, c'est bonjour. Vrai.
Aurélie Catou qui est présidente de l'association des parents d'élèves de Saint-Antonin, donc mobilisée.
Pareil.
Pareil. Et Frédéric Estéjean, maire de Parisot. Alors, c'est Parisot qui a commencé cette histoire-là. On vous voit régulièrement sur les mobilisations avec les chapeaux tricolores, histoire de dire que c'est pas qu'un problème de parents d'élèves, c'est aussi un problème...
C'est un problème d'élus aussi, oui.
C'est, voilà, c'est un problème,
tout à l'heure, oui. Pas
de problème de distribution de moyens pour que les écoles puissent accueillir les enfants. Alors, Florence Moreau-Gaudry, peut-être on va commencer par vous. Comment ça se fait qu'on remet en cause à chaque fois le nombre de postes de classes dans nos zones rurales?
Alors ça paraît un petit peu bizarre dès le mois de décembre de parler de la rentrée de septembre 2012, je sais, mais les dotations à l'inspection académique se font dès le mois de janvier pour le mois de septembre suivant. Et donc dans ce cadre-là, il est nécessaire aujourd'hui de travailler sur ces dotations. Les élus ont souhaité donc rencontrer l'inspecteur de l'éducation nationale la semaine dernière, donc pour faire le point avec lui sur la situation pour la rentrée donc de septembre 2012. Et donc au regard de cette réunion, ben on a eu des informations qui nous ont paru suffisamment alarmantes pour commencer à réfléchir tous ensemble et tous de manière concertée, élus, parents, enseignants, sur la problématique de la rentrée de septembre. En effet, l'inspecteur de l'éducation nationale nous a expliqué que non seulement il n'y aurait pas de dotation supplémentaire sur le département alors qu'un flux migratoire est plutôt positif, mais également, et ça c'est quand même quelque chose de nouveau sur notre territoire rural situé en zone de revitalisation rurale, c'est la non prise en compte des enfants de moins de 3 ans, puisque jusqu'à présent on accueille dans nos écoles les enfants à partir de 2 ans. Donc la non prise en compte dans les effectifs des écoles de ces enfants. Et puis également des effectifs, des moyennes d'effectifs qui augmentent drastiquement puisqu'on arrive maintenant à nous proposer une moyenne par classe de 29 enfants sur la maternelle.
Oui, quand et on de 29... dit moyenne, c'est pas la moyenne des notes. Hein.
On est clair, oui, nombre d'enfants. Donc de 29 sur l'école maternelle.
29 enfants,
oui,
en maternelle.
Et 27 sur l'élémentaire.
Mais c'est légal ça?
Ben, oui. C'est les nouvelles normes, entre guillemets. Donc, il était clair qu'en tant qu'élus, nous, on s'est alarmé de ceci. Et notre rôle à nous, ben, c'est de partager cet émoi avec les gens qui travaillent avec nous au quotidien, c'est-à-dire les parents d'élèves et les enseignants, ce qui a été fait.
D'accord. Donc, aussi c'est que les parents d'élèves, les enseignants sont... Grosso modo, sur la même longueur d'onde, pour dire, bon, peut-être que ça tombe d'en haut, c'est des arrêtés, des décisions et tout ça, mais faisons prendre conscience que les problèmes que ça pose en zone rurale.
Voilà, il faut que l'administration comprenne bien que c'est pas parce qu'on donne des moyennes sur un département que partout dans le département, on peut faire les mêmes choses. Il y a des endroits, et notamment nous, nos communes, mais là, ça sera les élus qui en parleront mieux que moi, où on ne peut pas accepter des moyennes de 29 élèves par classe. Ça, c'est impossible.
Et justement, je trouve ça aberrant qu'on puisse avoir des quotas, surtout en zone rurale. Et on se demande qui est-ce qui vote ça. On a des sénateurs, on a des députés, mais ils connaissent la campagne, ils viennent dans nos zones rurales. Comment peut-on mettre les mêmes quotas en ville que chez nous, en zone rurale? Ce n'est pas possible. Hein. Donc, il faut être conscient que nous devons... On doit agir autrement et ils doivent en tenir compte que nous sommes en rural. Nous sommes défavorisés. Hein. Nous n'avons pas les structures de crèches, de garderies, etc. qu'ils ont en ville. Donc, laissons les jeunes quand même en zone rurale et laissez nos enfants dans nos écoles.
Oui, c'est un phénomène un petit peu inverse de ce qu'on croyait. La fin de la désertification rurale, à nouveau, il y avait des gens qui venaient s'y installer. On pouvait imaginer que les services publics allaient suivre ce mouvement et que, en plus, les élus se bougent sur le territoire, adhèrent à des projets Massif Central, par exemple, pour revitaliser et rendre attractif, Frédéric Restéjean, les bras vous en tombent.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est consternant, malgré tout le plaisir que j'ai à vous voir, M. Péricas, c'est de revenir chaque année ici pour expliquer les mêmes choses, en fait. Ça prouve qu'il y a une non-compréhension totale de nos problèmes à tous les niveaux. Je pensais très sincèrement qu'on n'oserait pas revenir encore cette année nous parler de suppression de postes, compte tenu des arguments développés, et compte tenu du fait surtout que par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas eu de tsunami qui a détruit la population, il n'y a pas eu de baisse démographique majeure. Au contraire, la population sur le territoire augmente considérablement, parce que c'est vrai que, compte tenu du fait qu'il n'y a pas énormément de personnes, les pourcentages sont quand même importants. Nous avons donc une augmentation démographique. On est quand même à 23,75, je crois, sur le bassin d'école. Il n'y a absolument pas de quoi s'alarmer. 23,75, c'est pas du tout ridicule sur une moyenne qui est demandée à 27. En plus, une moyenne demandée à 27, c'est totalement grotesque, évidemment. D'ailleurs, pourquoi 27? Pourquoi pas 30, 40, 50? Enfin, je veux dire, à la limite, vous pouvez aller au bout d'une logique. Vous pouvez très bien aussi imaginer, tout d'un coup, un seul maître à l'école avec une classe à 6 niveaux et 130 élèves dans la classe. Ça, c'est faisable. Vous abattez les cloisons, c'est faisable. Il n'y a pas de logique, si vous voulez, à ça. 27 n'a pas plus de sens que 30, que 40.
C'est totalement... logique, c'est une logique comptable.
C'est une logique comptable qui, justement, il faut arriver à faire comprendre que, de toute façon, il n'y a pas du tout, en plus, les mêmes besoins en milieu rural, il n'y a pas les mêmes besoins de soutien scolaire, il n'y a pas du tout les mêmes besoins en termes d'offres de services. Et si vous voulez, nous, en tant qu'élus, c'est pas qu'on soutient, c'est qu'on fait partie de la mobilisation. C'est pas un soutien, c'est on est partie intégrante de la mobilisation parce que c'est notre problème à part entière. De plus, vous avez aussi des élus qui sont en plus parents d'élèves, ça c'est déjà. Mais comment vous dire, vous avez, il y a une espèce de chose qui est extrêmement blessante, c'est de sentir tout le temps le mépris des pouvoirs publics pour les élus ruraux. Ça se traduit pas seulement sur l'école, ça se traduit sur le retrait des services. On vous dit tout d'un coup, tiens, finalement, vous n'allez plus avoir de poste. Bon, la dotation, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas assommer tout le monde, mais enfin, la dotation globale de fonctionnement d'une commune, par exemple, comme Parisot, c'est 128 000 euros. C'est le salaire de deux députés. C'est pas beaucoup, quand même. Hein. 128 000 euros pour faire fonctionner une commune de 557 habitants, qui baisse chaque année. Chaque année, vous avez une dotation négative pour une commune qui augmente. C'est un signe de mépris. Moi, ce qui me blesse profondément, c'est que vous avez des gens, vous avez des conseillers, qui sont en nombre de 15 à 19 suivant les communes, qui, en fait, prennent sur leur temps, sur leur vie de famille, pour essayer de faire vivre un village. Et derrière, vous avez des gens qui vous disent « Bon non, finalement, ça sert à rien ». Et en plus, c'est un fonctionnement totalement erratique. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté, c'est vrai qu'on vous donne des subventions pour faire des choses, bien sûr. Mais ça sert à quoi de donner des subventions pour ensuite détruire, si vous voulez, ce que vous avez donné. Vous prenez quelque chose comme la communauté de communes, vous parliez du projet Massif Central, de l'accueil des nouvelles populations. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on nous a laissé mettre 50 000 euros là-dedans pour nous dire ensuite, oh ben finalement, oui, vous allez faire venir des gens, mais de toute façon, on peut pas accueillir les enfants, vous pourrez pas accueillir les enfants, vous pouvez. Donc, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut avoir à ce moment-là un langage clair, dire, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est une mégalopole Montauban-Toulouse, et puis le reste, vous faites réserve d'Indiens, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas, si vous voulez, nous laisser à ce moment-là dépenser des deniers publics pour ensuite, si vous voulez, saboter. Parce que, moi, je pèse les mots, c'est du sabotage. Moi, je parle de Parisot, par exemple, c'est du sabotage de notre boulot. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur aussi bien refaire venir un bar, faire venir le pôle médical, faire venir, garder des services de santé. C'est quelque chose, c'est un travail prodigieux de garder des services de santé. Il faut aller chercher des médecins, il faut argumenter. Et derrière, on vous dit, ah oui, mais excusez-nous, bon, vous avez maintenant la santé, vous n'avez pas besoin de l'école. C'est grotesque. C'est grotesque. Et alors, par contre, moi, je le dis, là, je suis très énervé. Donc, je suis très énervé. Les actions, je les soutiendrai, quelles qu'elles soient. je laisse les parents d'élèves. C'est vrai que les parents d'élèves ont une imagination débordante. Je leur fais confiance.
Ça veut dire que vous êtes vraiment énervé parce que il y a encore 10 mois, vous disiez attention, en tant qu'élu, quand même, on peut pas cautionner des choses qui seraient pas dans la légalité. Et là,
C'est sûr que si le projet c'est d'attacher la directrice de l'école à la grille pendant 3 jours, ça je cautionne pas, bien sûr. Mais par contre, des actions qui peuvent gêner. Oui, ce sont des actions qui peuvent gêner. Personnellement, j'ai autorisé 2 personnes en plus de la grève des enseignants de jeudi, parce qu'en plus il y a un mouvement national jeudi. J'ai autorisé, moi, effectivement, j'ai pris sur moi d'autoriser à ce que les surveillants affiliés à l'école et payés par nous, les ATSEM, fassent grève. Bon, j'ai demandé à ce qu'il y ait quand même, évidemment, pour la sécurité des enfants, j'ai demandé à ce qu'il y en ait 2 sur 4, mais j'ai autorisé 2 sur 4. Il n'y aura pas de cantine. J'en profite d'ailleurs pour signaler aux parents qu'il n'y aura pas de cantine à Paris. Il n'y aura pas de cantine. Les enfants seront surveillés, mais ils n'auront pas de cantine. Jeudi,
c'est la même chose à Saint-Antonin. Ouais. On prend sur nous, effectivement, de défier l'administration, de leur dire non, nous, on est complètement en phase avec les parents d'élèves et on les soutiendra jusqu'au bout.
Alors c'est ce qui se passe au niveau des élus, Marie
et tous ensemble, on le dit.
Hein. Voilà, ça c'est... Le mauvais côté, c'est qu'on revient tous les ans. Le bon côté, c'est qu'on apprend à force tous les ans. Donc, l'année dernière, on s'est tous rencontrés. On est contents de se retrouver malgré tout. Et on va beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que l'année dernière, il a fallu qu'on se rende compte, qu'on sache qui était qui. Maintenant, ça y est, je connais M. Castédian, je connais Mme Mandarly. Les parents d'élèves, on a tous nos mails, nos portables, tout ça. Et on va très, très vite. Donc ce matin, les écoles du territoire étaient occupées. Monsieur Darmaniac est au courant, on l'a joint au téléphone. L'inspecteur d'éducation nationale que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Effectivement, ils jouent la rapidité, ils avancent les dates. Ça sera pas comme l'année dernière fin janvier, ça sera plutôt du début janvier. On essaye un peu de squeezer tout le monde en faisant du très très vite. Mais nous aussi, on a gagné la rapidité sur les années. Et donc ça y est, on est tous coordonnés, on fait tous des actions ensemble. Jeudi, on est évidemment en soutien avec tous les enseignants grévistes. Les écoles seront fermées, les parents seront devant chaque école. Et après, il y aura un rendez-vous collectif.
Et en plus, avec une consigne, hein, faut s'habiller de deuil.
Voilà, parce que l'année dernière, on avait voulu faire un deuil des villages au niveau rural. Et cette année, on va faire un Noël noir. Hein, voilà, donc s'il y a certains qui ont envie de se déguiser en Père Noël noir, il n'y a pas de problème, on sera tous habillés de noir. Ils veulent tuer nos écoles, on va leur montrer qu'on n'est pas d'accord. On sera devant nos écoles, chacun dans son village, et on se retrouvera tous après sur Caussade à 11h30 devant l'inspection pour montrer à l'administration qu'on est présent, fort, et qu'on ne va pas lâcher l'affaire.
Pas d'accord. On se retrouve dans 2 minutes 42 secondes, d'accord ?
Je suis pas d'accord pour laisser faire, me laisser prendre, me laisser perdre. Je suis pas d'accord pour te laisser faire, te laisser m'étouffer, me faire taire. Je suis pas d'accord avec les prières, les bien-pensants, les bonnes manières. Je suis pas d'accord avec les règles, les petits pouvoirs, les grandes œillères. Je suis pas envie, je suis pas d'accord pour croire en rien. Je fais pas ce qu'on me dit, puisque tu veux ma main, voilà mon point. Pour qu'on s'arrange.
Le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
Oui, on a l'impression que c'est tous les jours que les parents sont mobilisés pour essayer de sauver les postes dans leurs écoles. D'ailleurs, on est en train de faire du show là en ce moment, puisque à l'instant même où on parle, là on est en direct dans les studios de Caïdus avec les parents d'élèves de Saint-Antonin, de Caïdus, Monsieur le maire de Parisot, Florence Moreau-Gaudry, adjointe à Saint-Antonin, Marianne Derli, adjointe à Caïdus. On est en train de parler du problème qui est posé des suppressions de postes annoncées dans les écoles. Et en ce moment, ou dans quelques minutes, FR3 va venir filmer devant l'école de Saint-Antonin. Donc vous appelez, je suppose, les parents à venir dire un petit coucou pour le coup.
Oui, effectivement. Julie. Alors, aujourd'hui, à la radio, nous avons les parents d'élèves de Saint-Antonin et de Caïdus, mais il faut savoir que les parents d'élèves de l'école de Parisot, de Varin et de la Guépi sont avec nous et on est là aussi pour les représenter. Donc aujourd'hui, nos écoles sont occupées. Nous sommes là à occuper nos écoles pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique de l'inspection d'académie qui refuse de nous comptabiliser les enfants de moins de 3 ans à partir de l'année prochaine. Nous, à Caïdus, par exemple, on doit accueillir 19 enfants de moins de 3 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants au mois de septembre ? Alors, par rapport à ça, nous, les parents d'élèves, on appelle à une réunion collective ce soir à 20h30 à l'école de Varin. Tout le monde est invité, parents, amis, élus et les autres. Aujourd'hui.
Pas les enfants quand même, il faut qu'ils soient couchés à cette heure-là. Enfin.
Les enfants, il faudrait qu'ils mangent et qu'ils se reposent, effectivement, mais. Aujourd'hui, donc, à Saint-Antonin, bientôt, dans un petit quart d'heure, nous recevons FR3. On sera tous devant l'école pour parler de notre mobilisation.
Oui, d'ailleurs, si les journalistes FR3 nous entendent, qu'ils attendent que vous ayez le temps de faire Caïdus.
Oui, on arrive. Enfin,
voilà. On les a prévenus qu'on était d'abord à la radio et qu'on arrivait
ensuite.
Eh bien
oui, la radio d'abord.
CFM d'abord.
Hein. Ben oui.
Donc demain, mercredi, on aura le temps de discuter tous ensemble de la suite des événements. Jeudi, on sera tous mobilisés également avec les enseignants. On ira là où il faut, à Caussade, à Montauban pour se faire entendre, pas de souci. Vendredi, on sera toujours là. On a prévu des actions coup de poing et nos occupations sont illimitées dans toutes nos écoles.
Occupations illimitées, d'accord. Ben, dis donc. C'est chaud là. Hein. Alors en plus, vous avez un blog là sur lequel vous communiquez, vous envoyez vos communiqués de presse. C'est http://école-qrga.org et donc à l'autre bout de la terre, on peut suivre votre mobilisation. C'est vraiment bien. Vous utilisez aussi une liste de diffusion qui avait été mise en place déjà à la précédente bataille gagnée. Celle-là.
Gagnée.
Bon, et celle-là, elle est gagnable ?
Elle est gagnable parce qu'on est très motivés. Alors, ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, mais je crois qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, ni du côté des élus, ni du côté des parents d'élèves, ni du côté des enseignants. On tient à nos écoles, on tient à nos villages, et on veut continuer à vivre ici. On n'a pas envie d'aller ailleurs, et on va tout faire pour qu'on puisse continuer à vivre ici avec nos enfants et tout le monde.
Alors moi j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que c'est un casus belli l'école. Hein, c'est-à-dire que jusque-là, les trésors publics pouvaient partir, les maires piquaient des colères, mais bon, les postes pouvaient se restructurer, les maires piquaient des colères, mais bon, accepter finalement des choses. Alors là, l'école, non, c'est pas touche à l'avenir de nos enfants, c'est pas possible. Et y compris le maire de Caïdus avait annoncé comme ça, tout à fait officiellement, que s'il fallait, il y aurait une démission en bloc et qu'il verrait ce que c'est d'avoir à gérer, à mettre sous tutelle des écoles, des mairies de zones rurales. Et moi, quand il avait dit ça, j'ai dit, donc, il met un truc dans la balance, là, fort.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en économie, on appelle ça l'IDH, l'indice de développement humain, dedans, le facteur numéro 1, c'est l'éducation, et le facteur numéro 2, c'est la santé. Donc, à partir du moment où vous faites une santé au rabais, quel que soit votre niveau, quel que soit votre niveau économique, vous pouvez faire partie du G20. Si vous faites des générations d'analphabètes, vous retombez dans un indice d'IDH qui est très faible. Donc, moi, j'avais cru comprendre que la priorité c'était d'apprendre à lire et écrire aux enfants. À 30 par classe, je suis pas sûr que ça marche déjà. À 3 niveaux non plus, encore moins d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut voir. Si vous avez aussi la multiplication des niveaux. C'est-à-dire que si vous passez de 23 à 27, déjà vous avez un niveau supplémentaire, donc vous avez un maître qui est obligé de s'occuper de trois niveaux différents. Du point de vue de l'efficacité, ça ne marche pas très bien. Il faut aussi, mais ça c'est plus un problème qui a été géré en interne avec les enseignants, mais qui est très inquiétant, c'est que vous avez aussi la disparition quasi programmée des RASET. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez en milieu rural, vous avez des gens qui sont en difficulté, donc vous n'avez plus de soutien scolaire. Donc voilà, je pense que si le but, effectivement, si le but c'est faire une génération d'analphabètes, c'est bien parti.
Comment c'est possible un truc comme ça? Enfin,
il
n'y a pas des élections dans 6 mois, il n'a pas envie d'être populaire ce gouvernement, qu'est-ce qui se passe?
Je pense qu'ils sont actuellement dans un système de rentabilité, sauf qu'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas compter, c'est l'éducation. L'éducation ne peut pas être rentable, c'est un gage sur l'avenir, et voilà, il faut accepter à un moment que... Eh bien oui, l'éducation nationale n'est pas une entreprise rentable. Elle est là pour former les futurs citoyens français et c'est très important.
Donc quoi, la connaissance n'est pas une marchandise?
Non, je crois pas. Mais je vais peut-être relire mes textes.
Bon, vous continuez le mouvement. On voit pas les enseignants, mais je
mais
suppose
ils sont là,
que vous avez des contacts
là.
Avec eux. Voilà. J'ai vu des...
Ah, ils sont séquestrés, donc ils peuvent pas venir.
Oui.
Il faut quand même les remercier parce que tous les enseignants, du bassin, demain seront en grève. Demain on est mercredi, jeudi ils seront en grève, hein, et ces enseignants ils se mettent en grève pour une chose, pour nous aider, pour travailler avec nous à la sauvegarde de notre école, hein, donc c'est vraiment une coordination, comme je disais tout à l'heure, avec les enseignants, les élus, les parents et les habitants des communes, parce qu'ils sont également concernés. Mais franchement, on a des enseignants qui sont tout à fait conscients de la difficulté grandissante qu'ils ont à produire un enseignement correct. Je cite l'exemple de Varin, qui cette année se retrouve avec une classe élémentaire unique, donc du CP jusqu'au CM2. Ça fait 5 sections.
C'est impensable.
Et ils sont 28 cette année. L'année prochaine, les prévisions montrent qu'ils seraient 31. Donc qu'est-ce que veut faire l'administration? Ils disent, ben, on va globaliser. On va prendre en même temps les élèves de la maternelle et les élèves de l'élémentaire. Il y a 2 classes à Varin, ce qui fait un chiffre relativement correct. Et on va avoir 9 sections, des tout-petits jusqu'au CM2, répartis sur 2 classes. Vous rendez compte? 9 niveaux sur 2 classes. Avec un chiffre relativement élevé. Hein, puisqu'ils seront plus d'une cinquantaine l'année prochaine. Donc ça veut dire des classes qui sont chargées au-delà de 26 ou 27 élèves avec 9 niveaux.
Alors moi ça me sidère toujours, parce que je me dis, quand vous avancez des chiffres comme ça, ils connaissent cette réalité, ils en font fi, ceux qui décident sur un tableur.
Mais on en revient, je vous dis, on en revient toujours au mépris. Si vous voulez, il y a un nouveau jacobinisme centralisateur qui se met en place depuis plusieurs années, et on en vient à un mépris de plus en plus grand pour les communes rurales. Et ça se voit sur tous les domaines. Vous voulez faire, par exemple, un truc qui n'a absolument rien à voir. Vous voulez faire une carte communale. Les gens, les services de l'État veulent vous entasser des maisons avec des jardins de 400 mètres carrés, comme si on était dans la banlieue de Toulouse. Il y a une incompréhension totale de la spécificité de la vie rurale. Voilà. De plus, vous avez aussi des gens, des décideurs, dont on se demande quand même quelle caution intellectuelle ils peuvent avoir, parce que ne pas arriver à comprendre qu'un enfant de 2 ans, à un moment ou à un autre, il finit par avoir 3 ans, puis 4 ans, c'est ça qui est terrible. Quand vous comptabilisez pas les petites sections, c'est d'une imbécilité majeure, puisque ça veut dire justement que vous n'arrivez pas à prévoir, vous n'arrivez pas à avoir de prévision à plus d'un an. Si vous ne comptabilisez pas les petites sections, ça veut dire que vous fichez totalement de ce qui va se passer la fois d'après et que vous agissez au coup par coup.
Eh oui, c'est-à-dire on décide en fonction des budgets, les budgets sont annuels, donc les enfants aussi. Eh bien écoutez, je suis désolé, moi, mais on aurait pu parler longtemps, mais voilà quoi.
On peut continuer à Saint-Antonin.
On a le journal à 12h30, merci d'être venu.
N'oubliez pas la réunion de ce soir.
Réunion ce soir, effectivement, à l'école publique de Varennes pour coordonner les luttes. Vous avez été de plus en plus rapide, j'ai l'impression que c'est parce que là-haut, ils prennent des décisions de plus en plus vite. Du coup, vous n'êtes pas passé par la case, une pétition, recueille plein de signatures, puis après on fait le truc.
On y va direct.
Merci d'être venu, Marie-Anne Derly, Julie Busson, Florence Moreau-Gaudry, Aurélie Catou et Frédéric Estéjean, maire de Parisot.
Merci.
Bon courage pour la suite. Mais
à bientôt.
Les micros sont ouverts, n'hésitez pas. Le max est terminé. Bon après-midi, écoute du programme CFM. Tout de suite, le journal.